Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la table ronde critique de Vive le cinéma, une fois par mois. Pierre Charpillos, Benoît Basirico, Bernard Payen micro, bonjour à tous les deux.
Bonjour Bernard.
Bonjour Bernard.
On est là pour vous parler de quelques films qu'on peut découvrir dans les salles de cinéma, dans un marché extrêmement bas, parce que rien ne marche dans les salles. Personne ne va au cinéma, donc j'exagère un peu, mais quand même. Alors que le printemps du cinéma a lieu en ce moment, jusque mardi, jusque demain. Et on va parler de plusieurs films. On va parler de Mickey 17 de Bong Joon-ho, qui est sorti il y a quelques temps déjà, The Insider et de Présence de Steven Soderbergh, du Secret de Khéops de Barbara Schultz, de Parthénopée de Paolo Sorrentino et de The Last Showgirl de Gia Coppola, sans en parler de nos coups de cœur. Voilà, programme éclectique, Benoît.
Et on commence comme d'habitude en musique avec la première BO illustrant le premier film. Quelques notes de cordes romantiques dans les codes un peu du romantisme hollywoodien qui détonne, on va dire, dans ce récit de farce satirique. La musique est signée Jung Jae-il pour le coréen Bong Joon-ho, Mickey 17. Il retrouve d'ailleurs le réalisateur, donc c'est un tandem hein, après Okja et Parasite.
Alors c'est donc Mickey 17, Mickey 17 de Bong Joon-ho, le nouveau film américain du coréen Bong Joon-ho. Héros malgré lui, Mickey Barnes se tue à la tâche littéralement, car c'est ce qu'exige de lui son entreprise, mourir régulièrement pour gagner sa vie. C'est donc avec Robert Pattinson et moi, conformément à ce que tout le monde fait à peu près en ce moment, comme nous disait Bernard, j'ai raté ce film en salle de cinéma, donc j'ai pas fait partie des spectateurs, mais j'attendais un peu de vous entendre pour savoir si j'allais y aller ou pas, parce que c'est un film qui divise un peu, donc je voulais savoir ce que vous en avez pensé, Benoît, Bernard.
Du coup, tu nous diras tout à l'heure si t'as été convaincu, tu
Exactement.
Es notre premier auditeur.
Okay. Exactement.
Et moi, j'ai plutôt aimé, alors c'était précédé d'une je trouve, en tout cas de ce que j'ai lu et entendu dans mon entourage, c'était précédé d'une réputation assez mauvaise, en tout cas un sous-parasite. Et au final, curieusement, Parasite, que j'avais plutôt aimé, mais j'avais pas adoré comme les prix le mettaient un peu sur un piédestal. Et en fait, j'ai même préféré Mickey 17. Pour moi, ça participe de son cinéma le meilleur, qui ne se prend pas au sérieux, là où Parasite, parfois, quand même, malgré tout, se prenait un peu trop au sérieux, puis était un peu trop inégal également dans la succession des différents genres, notamment la dernière partie un peu horrifique, je trouve qu'il détonnait par rapport à la côté comédie du début. Là, dans Mickey 17, c'est beaucoup plus tenu au niveau de l'humeur. J'ai beaucoup aimé donc cette satire mordante de notre société où les inégalités sociales sont poussées à l'extrême. Ces expendables, hein, ces personnes dupliquées, sont une métaphore de la main-d'œuvre jetable d'aujourd'hui, un peu les temps modernes d'aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai beaucoup pensé à Chaplin, non seulement les temps modernes, mais aussi le dictateur, puisqu'il y a les figures de Trump et d'Elon Musk. D'ailleurs, il y a un personnage qui me faisait penser à Elon Musk, et puis après la projection, j'ai regardé dans IMDb, et il s'appelle Alan Manikova. Donc, c'est un peu le proche, en tout cas les mêmes initiales. Bong Joon-ho nous livre donc une charge antifasciste virulente, mais cette touche de burlesque également et de drôlerie et de bouffonnerie qui lui est propre, il l'instille comme ça jusqu'au bout, notamment également la tendresse qui survient à travers des petites bêtes. Bong Joon-ho, on voit que ce qui l'intéresse, c'est surtout de se mettre du côté des animaux, des bêtes, du côté de ceux qui vont être exterminés. Donc voilà, moi j'aime beaucoup Bong Joon-ho pour à la la fois la portée politique, sociale, mais également l'audace sur le fil de ne pas avoir peur du grotesque, de ne pas avoir peur du grandiose, de la grande forme. Il aborde des thèmes universels, la déshumanisation, l'exploitation, la quête d'identité. Et on pense à Brazil également de Terry Gilliam ou à Bienvenue à Gattaca de Andrew Niccol sur la manipulation génétique. Mais Mickey 17, ce n'est pas qu'une grosse farce, hein, c'est aussi des moments, donc, comme je dis, de pure mignonnerie avec ces créatures capables de bluffer comme des humains. Alors moi, j'ai beaucoup aimé aussi ce moment où finalement, on leur affuble également la capacité de bluffer comme au poker. Donc c'est à la fois un film touchant et étrange.
Bernard, tu as les mêmes initiales que Bill Pullman. Alors voilà, je sais pas, c'est peut-être un signe. Qu'as-tu pensé de... ce film.
C'est un film super bizarre, en fait, quand même. C'est parce qu'il apparaît avec les atours du blockbuster, le budget aussi d'un blockbuster, et puis il apparaît comme un objet de cinéma très étrange qui aurait presque échappé à son auteur, je dirais. Moi, j'ai plutôt aimé aussi, y compris dans son ton grotesque qu'on retrouvait déjà dans The Host. Ça me fait rigoler quand on rejette un peu le film pour ces raisons-là, que le film a des variations de ton comme ça, et notamment dans le jeu de Pattinson, ou de Mark Ruffalo, ce côté très grotesque. Mais il y a aussi cette espèce de grand huit d'émotions. C'est un film totalement absurde qui parle d'une situation absurde aussi. Et ça questionne beaucoup d'ailleurs la croyance du spectateur. On peut ne pas se poser de questions, on peut se dire aussi, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? C'est un peu what the fuck. Pattinson a cette voix étrange, il a donc effectivement son double assement, il cabotine un max. On a perdu aussi Mark Ruffalo, donc c'est effectivement à la fois Elon Musk et Donald Trump. Il retrouve la petite danse de Trump à un moment donné dans une scène très furtive. Il y a Toni Collette aussi qui nous fait un numéro proche de la mort, vous voici bien. Je suis pas sûr que cette fable dystopique politique soit efficace, enfin disons qu'elle prêche aux convaincus, mais elle est, voilà, je suis pas sûr que ce soit ça retourne aussi les gens qui sont par exemple fans de Trump, mais en même temps ce principe d'un individu qu'on photocopie, qu'on imprime, je trouve ça assez drôle, assez réussi. Il y a aussi un truc un peu direct, un peu frontal, un peu sale presque dans les scènes de sexe, je dirais, que je trouve assez original aussi. Et puis il y a évidemment aussi tout le travail de Darius Conji, donc le directeur photo du film, mais voilà, c'est celui de Seven et de James Gray, de plein de films. Et on minimise, enfin lui-même minimise son travail d'auteur dans le film en disant que Bong Joon-ho, finalement, il est tellement précis dans sa mise en scène, dans ce qu'il veut faire, qu'il arrive avec une mise en scène au cordeau et qu'il n'a rien à faire. Mais si, je pense qu'il a, il y a quand même du Darius Conji dans l'image, et notamment sur les intérieurs et sur cette grande bataille finale, cette bataille dans la neige avec donc ces animaux mystérieux dont tu parlais, Benoît, là, et ça, c'est du grand Darius Conji aussi.
Oui, c'est un univers visuellement saisissant, des décors, installations futuristes, paysages désolés, une atmosphère comme ça, à la fois froide, oppressive, hein, et puis en même temps qui laisse la place à une inventivité, à un débordement d'imagination. Et alors moi, déjà le pitch initial, comme moi je l'ai interprété, parce qu'évidemment c'est pas littéral, mais c'est Bong Joon-ho a tourné ce film après la défaite de Trump contre Joe Biden, et donc il imagine la défaite de Trump et de Elon Musk, qui sont donc du coup envoyés dans l'espace pour œuvrer dans leur démagogie suprême en dehors des humains, quoi. Donc c'est assez drôle parce que on leur fait faire leur connerie dans l'espace, quoi. Sauf que malheureusement aujourd'hui, bah, ils la font dans le monde réel, quoi. Donc c'est un peu le côté aussi un peu mordant aujourd'hui, quoi.
Vas-y, Nambert.
Non, mais le film a mis du temps à sortir, évidemment. On s'aperçoit qu'il est totalement raccord avec effectivement la politique américaine actuelle.
Mais moi, en lisant le synopsis, ça me faisait beaucoup penser à ce film avec Tom Cruise, Edge of Tomorrow, dans lequel la tagline, c'était vivre, mourir, renaître. Il y avait effectivement cette espèce de soldat joué par Tom Cruise qui ne faisait que mourir et être ressuscité, réapparaître, etc., à l'infini, avec une espèce de métaphore sur le fait que les soldats sont des gens interchangeables. Il y a Siatsa aussi, où on est sur un film complètement différent. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, Edge of Tomorrow.
Oui, tout à fait. Mais disons que dans ce film, finalement, le personnage de Robert Pattinson, c'est le grain de sable qui vient enrayer la machine. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de parfait, où les personnages sont répliqués, donc ils meurent, mais leur cerveau continue à avoir la mémoire, etc. Et à un moment donné, celui qui doit mourir ne meurt pas. Et donc, il se retrouve, alors je ne sais pas si on doit divulgacher cet aspect-là, mais en tout cas, il y a deux Pattinson, quoi.
Ça, on le voit dans la bande-annonce.
Oui, voilà.
Donc, c'est pas une surprise. Bon, écoutez, vous m'avez donné envie de le voir. Voilà, donc j'irai. Je vous en parle la semaine prochaine.
Cette musique un peu funky avec percussion basse électrique est signée David Holmes. David Holmes, qui est le compositeur de Steven Soderbergh sur son versant espionnage, comme les Ocean's 12, Piégé ou encore Mosaïque. Et là, donc, cette partition scande par sa rythmique ce film d'espionnage qui s'appelle Insider.
Insider ou The Insider est donc un film d'espionnage haletant qui raconte l'histoire d'un couple d'agents secrets. Alors, c'est pas moi qui le dis haletant, c'est vraiment le synopsis officiel. George Woodhouse et sa femme Catherine. Lorsque Catherine est soupçonnée de trahison envers la nation, George doit faire face à un dilemme déchirant, protéger son mariage ou défendre son pays. Et ça, c'est le Soderbergh 1 sur 2, puisqu'on a un doublé Soderbergh. Ces temps-ci qui sont sortis presque consécutivement. Deux Soderbergh, deux ambiances. Et l'autre, c'est donc Présence, un film autour d'une famille qui emménage dans une nouvelle maison où une mystérieuse présence hante les lieux. Alors, vous êtes plus Présence ou Insider ?
Benoît, d'avoir ces deux films de Soderbergh nous permet de faire un croisement critique finalement, d'aborder les deux en les croisant. Peut-être Bernard pour commencer là-dessus.
Oui, c'est Soderbergh et puis c'est aussi David Koepp qui est le scénariste des deux films et qui est un scénariste très important à Hollywood puisque c'est lui qui a écrit, Mission Impossible, Jurassic Park, c'est lui aussi, Panic Room de Fincher, c'était lui. Enfin voilà, il a écrit beaucoup, Spider-Man aussi, c'était lui. Et donc il a écrit les scénarios de ces deux films. Et donc ce qui est intéressant, c'est que dans les deux films, il mélange à la fois une dimension intime, la dimension un peu famille, le couple dans Présence est présent aussi, mais plus la famille dans ce film-là. Et puis dans The Insider, c'est plus finalement au-delà de la dimension espionnage, la dimension aussi là, très clairement le couple, mais aussi élargi un peu au collectif avec des espèces de simulacres de dîners d'amis qui sont pas des amis puisque c'est plus des collègues d'ailleurs et puis potentiellement aussi des ennemis. Donc il mélange à la fois cette dimension intime et puis une dimension spectaculaire. Et dans les films, dans les deux films, le rythme est plutôt lent, presque un ton monotone comme ça je dirais, et en même temps on a des éclats de violence assez inattendus dans les deux films, et c'est intéressant dans la construction et dans le rythme du film de comparer les deux. Si on cherche pour In The Insider un film d'espionnage classique, en fait, il faut passer son chemin, je pense, parce que c'est un film sur plus, donc, que je disais, sur le couple et sur les faux-semblants. C'est une sorte aussi de whodunit. Il y a un côté Cluedo, je trouve, dans ce film-là. Et on réunit des agents secrets autour d'une table pour savoir qui a menti, qui est la taupe. Il y a une petite partition Agatha Christie dans ce film, dans laquelle les acteurs trouvent leur place avec quand même une grande froideur, avec Michael Fassbender, Cate Blanchett. Tom Burke aussi, qui jouait Orson Welles dans Mank de Fincher. Enfin, voilà, et le film est beaucoup plus classique dans sa forme que les Présences, qui est, je vais vous laisser plus en parler, mais Présences est un film tout en plan séquence, avec le point de vue du fantôme. Voilà.
Oui, Steven Soderbergh est un cinéaste qui me passionne, sans forcément tout le temps considérer que c'est une grande œuvre. C'est-à-dire que moi, ce qui me passionne chez Steven Soderbergh, c'est que son côté laborantin, un caméléon cinématographique qui vient explorer comme ça tous les genres, pour les transgresser, pour les manipuler, il fait un travail de recherche cinématographique. Pour moi, son chef-d'œuvre ultime, c'était The Limey, l'anglais, qui pour moi parvenait, tout en étant du laboratoire, parvenait à quand même malgré tout être un grand film. Mais aujourd'hui, il continue à faire son Labyrinthin. D'ailleurs, il avait dit récemment, il y a quelques années, qu'il allait terminer d'être réalisateur. Et du coup, c'est à partir du moment où il a dit « je vais terminer d'être cinéaste » qu'il a commencé à bricoler avec ses iPhones, à faire des images avec son téléphone. Donc je me dis que là, il est plus du tout un cinéaste, mais il est un expérimentateur qui se moque complètement de respecter un cahier des charges de sorties, de grandes sorties. Mais malgré tout, on a coup sur coup deux films qui sont malgré tout sortis en salle, puisque ces films avec iPhone sont parfois été diffusés un peu comme ça, en parallèle. Donc deux films, deux mondes, et malgré tout, une signature reconnaissable, celle d'un cinéaste qui ne cesse de se réinventer. Alors sur Insider, il s'ancre dans une tradition qui est celle du thriller d'espionnage, où la tension se distille lentement, avec des non-dits qui pèsent lourd, avec des explosions, comme tu viens de le dire, de violence. Fassbender et Cate Blanchett, donc un couple à la vie privée. Et puis la confrontation entre leur sphère privée et leur sphère professionnelle, comme ça, qui vont s'entrecroiser. Il y aura du doute, de la suspicion qui va arriver. C'est un film très bavard, hein, beaucoup de joutes verbales. Donc c'est un duel psychologique. Donc au-delà de l'espionnage, qui intéresse Soderbergh là dans son côté laboratoire, c'est comment finalement filmer un couple, ce duel psychologique avec des regards, des silences. On pense beaucoup à Mankiewicz dans cette manière comme ça de le scénario en fait est très habile pour manipuler le spectateur, c'est qu'on voit pas venir les choses. Donc il y a du suspense permanent, cette tension permanente sur ce qui est caché, sur ce qui est dit, parce que ce qui est dit n'est pas le vrai, etc. Donc c'est assez intéressant. Et puis Présence, de l'autre côté, c'est l'inverse. Donc ça qui est intéressant, c'est qu'il va faire l'inverse, que d'un film bavard comme Insider, on a dans Présence un film complètement quasiment muet, où cette caméra muette qui est le fantôme, qui déambule comme ça dans la maison. Donc Insider est aussi très découpé, là où Présence est un plan séquence. Donc on a comme ça une manière de vous faire deux films qui sont presque les miroirs l'un de l'autre, qui s'opposent, mais en même temps, point commun, c'est justement la question du couple dans Insider, et bien c'est aussi la question familiale, des liens intimes dans Présence. Donc moi, c'est vraiment un cinéaste qui me passionne, parce qu'à chaque fois, on se pose la question comment il va filmer son récit conventionnel. Et finalement, la forme, c'est peut-être ça qu'on peut lui reprocher, c'est que toujours la forme est plus importante que le fond, évidemment, dans son cinéma.
Oui, Benoît, je suis assez d'accord sur ce que tu disais, notamment sur le fait que c'est le grand retour au cinéma en salle pour Steven Soderbergh. C'est vrai que ça faisait plusieurs films qui étaient sortis uniquement sur des plateformes, dont malheureusement deux qui ne sont pas du tout disponibles en France. C'est un peu dommage, mais sur les plateformes, il y a eu notamment La Grande Traversée, que je trouvais un film vraiment génial, une très 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 belle comédie, très drôle, très piquante, qui était disponible sur Max et en France à l'époque sur MyCanal, mais qui est toujours disponible maintenant sur MyCanal, sur Max via MyCanal. Donc je vous invite à le voir si vous ne l'avez pas vu. Et tu disais effectivement que c'est un cinéaste qui est dans l'expérimentation. Moi j'ai l'impression qu'il a toujours été dans cette expérimentation. Si on prend l'anglais par exemple, il y a un travail de montage qui était quand même assez fort. Je crois qu'on en a d'ailleurs parlé la dernière fois. Il y a toujours eu son remake de Psychose, enfin il a toujours été un peu dans ce côté très expérimental, tout en trouvant une place dans un cinéma commercial. Ça a toujours été un peu son talent, parce que c'est aussi un cinéaste qui à la fois a ce côté bricoleur et en même temps c'est quelqu'un qui est parfaitement conscient de l'économie dans laquelle il s'inscrit. Et c'est d'ailleurs, je pense, un des cinéastes américains aujourd'hui qui est le plus conscient du système économique hollywoodien et de la manière de fabriquer des films. C'est pour ça qu'il a été un des premiers à investir les plateformes, qu'il a pu faire des films dans la liberté que lui offraient les plateformes, tout en respectant les contraintes, et qu'il arrive à faire un film avec un budget dérisoire d'un côté, qui est Présence, où vraiment on sent que chaque dépense est vraiment contrôlée. C'est un film qui est fait avec vraiment pas grand-chose. Et puis en même temps, un film avec un budget plus important, soutenu par un studio, avec Black Box, donc d'Insider, de l'autre côté. Donc ce talent est assez, voilà, c'est un cas unique quand même à Hollywood, et il faut le reconnaître. Et ça fait des films qui sont assez uniques, qui sont des vrais films avec une vraie signature. Alors même si là, quand on prend par exemple Présence, ça fait quand même beaucoup penser à des films comme par exemple Here, très récemment, de Robert Zemeckis, où on avait ce point de vue de la maison, on était entièrement dans une maison aussi, qui était aussi un film avec une dimension expérimentale. Bon, on en avait parlé ici, où sur l'aspect du fantôme, Ghost Story de David Lowery, où on était aussi avec ce point de vue du fantôme. Mais je trouve que par rapport à ces films-là, il y a quelque chose de plus réussi, c'est qu'on a un concept, et c'est un film à concept, donc effectivement on va explorer le concept, mais en même temps, on s'intéresse véritablement au scénario, au personnage, à la dynamique de la famille. Et comme vous l'avez bien dit tous les deux, c'est un film présence sur une histoire de famille. Une fois qu'on est débarrassé de ce concept, de effectivement le point de vue du fantôme, on s'intéresse vraiment à la dynamique de cette famille et avec un point de vue particulier qui est à la fois... fait partie de cette famille parce qu'il hante les lieux et en même temps il est extérieur parce qu'il les découvre, il essaye de les comprendre, donc il y a quelque chose d'assez beau. Après je trouve que ça, au bout d'un moment ça patine un peu et on sait pas trop exactement où il veut en venir et ça, alors, ça la conclusion est un peu décevante, on aurait aimé quelque chose d'un peu plus surprenant ou plus fort, mais malgré tout le geste est assez réussi, donc moi je conseillerais en particulier Présence.
Et dans les réalisateurs américains qui sont entre le blockbuster et le cinéma expérimental, on peut citer Gus Van Sant, tu parlais de Psycho,
oui,
qui avait repris...
Mais Gus Van Sant, c'est assez différent, parce que Gus Van Sant, tu vois, d'un côté, il va faire des films 100% avec Hollywood, que du coup, le côté expérimental, vraiment, il faut quand même aller le chercher, il n'est pas du tout présent. Et d'autre côté, des films 100% expérimentaux, oui, ce qu'il a un peu arrêté de faire, d'ailleurs. Mmh. Mais c'est l'un ou l'autre. Alors que lui, il arrive vraiment à faire des films entre les deux.
Et il y a Robert Zemeckis, évidemment, et dans Présence, par exemple, je pense à Here, qui est le dernier Robert Zemeckis, qui est dans un huis clos.
C'est ce que je disais, ouais.
Oui, voilà. Ouais. Je trouve que la différence entre Robert Zemeckis et Soderbergh, c'est que finalement, chez Soderbergh, la caméra est un personnage. Et d'ailleurs, il a commencé comme ça avec Suspension des vidéos, où la vidéo était centrale. Donc, c'est un peu ce qui différencie avec des autres cinéastes, c'est que vraiment, la caméra fait partie. En fait, c'est presque le filmeur, quoi. C'est-à-dire qu'on pourrait presque le rapprocher d'un Alain Cavalier, quoi.
D'autant plus que c'est lui qui cadre, c'est lui qui fait la photo de son film. Et qui le monte. Donc, c'est aussi un cas unique de quelqu'un sous pseudo, puisque au générique, en fait, les noms qui apparaissent sont des pseudos de lui-même au montage et à la photo. Donc, il fait ce travail-là presque en autonomie et presque artisanal. Il y a vraiment une dimension artisanale dans la dimension de son cinéma, en fait.
C'est un peu comme Raphaël Quenard, il a des pseudos, mais en fait, on sait qui c'est de toute façon.
Ah bon, c'est vrai.
Dans son livre, oui.
Ah oui, c'est vrai qu'il sort, lui, j'ai appris ça hier. Très bien. Eh bien, c'était donc Steven Soderbergh.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Dans cette partition, on entend d'ailleurs un oud qui évoque l'Égypte pour Le Secret de Khéops. Le duo musical Audrey Ismaël et Olivier Coursier avaient d'ailleurs pu déjà faire des musiques de films comme Le Consentement. Mais dans Le Consentement, évidemment, l'enjeu était de soutenir un drame, une gravité dans le sujet qui tendait parfois à effacer la musique. Alors là, ils ont justement fait le contraire, évidemment, pour ce récit d'aventure en filigrane. Ils ont osé le grand orchestre, les sonorités orientales, les percussions tribale, les cordes épiques. Donc voilà, grande partition d'aventure, et c'est là où on va y venir. L'intéressant, c'est que finalement, dans le film lui-même, l'aventure est plutôt hors champ, et c'est là la musique convoque ce hors champ-là.
C'est Le Secret de Khéops, le premier long métrage en tant que réalisatrice de l'actrice Barbara Schulz. J'ai presque envie de lire le résumé avec la voix exaltée de Fabrice Lucchini, mais je vais ne pas le faire. Le trésor du pharaon Khéops a-t-il été découvert pendant la campagne d'Égypte de Napoléon, ramené en France puis caché à Paris ? Christian Robinson, c'est Fabrice Lucchini, archéologue flamboyant aux méthodes peu orthodoxes, en est persuadé depuis la découverte d'une mystérieuse inscription lors des nouvelles fouilles au Caire. Bien décidé à déchiffrer les indices laissés par Dominique Vivant Denon, le premier directeur du Louvre, Christian Robinson se lance alors dans une quête au trésor hors du commun à travers Paris, des archives poussiéreuses du Louvre jusqu'au cabinet secret de Malmaison. Il embarque dans son aventure sa fille et son petit-fils dans l'espoir insensé de réaliser à Paris la plus grande découverte archéologique du 21e siècle. Est-ce que vous étiez pris par cet esprit d'aventure, Benoît Bernard ?
Bah, c'est un projet assez inattendu de la part de Barbara Schulz, donc qui est une actrice qui a été révélée dans les années, au début des années 2000, il y a 25 ans. Je crois que l'un de ses premiers rôles, c'était jouer la fille de Catherine Fro dans La Dilettante, d'ailleurs. Et puis, elle a suivi son petit bonhomme de chemin, et puis là, elle fait son premier film. Alors, c'est un scénario d'ailleurs de Christophe Turpin, qui avait écrit le scénario de Jean-Philippe, qui était connu pour ça, qui était déjà un film avec Lucchini. Donc, il y a aussi l'idée, finalement, d'un Fabrice Lucchini film, qui est un genre en soi, qu'on pourrait dire, puisque, d'ailleurs, ça se voit dans les chiffres, il est vendu comme tel, je pense, en termes de distribution. Plus qu'une comédie familiale, mais j'étais étonné que le film sorte après les vacances scolaires, par exemple, alors que c'est, il y a une dimension comme ça sur le papier de film d'aventure familiale qui peut être vu par tout le monde, et en fait on se rend compte que c'est surtout les seniors qui vont voir le film. Donc nous, dont nous.
Et puis, pour toi,
pour toi, j'allais dire.
Donc en tout cas. C'était la petite blague, mais en tout cas elle réalise. Elle réalise ce film. Il faut d'ailleurs rappeler qu'elle est, elle est très fan de Broca, et donc il y a vraiment l'idée de Broca, Rapno qui sont derrière, évidemment, derrière cet aspect-là du film d'aventure. Et elle devait jouer d'ailleurs dans le bossu de Philippe Broca. Elle avait eu un échange avec le cinéaste, et puis ça s'était pas fait. Et on sent vraiment que le cinéaste, le réalisateur de L'Homme de Rio, a vraiment servi effectivement de boussole pour faire ce film. On retrouve dans les thématiques, évidemment, dans le côté film d'aventure à la Tintin, les portes secrètes, le côté jeu de piste, etc. Mais aussi dans la transmission, qui est un truc peut-être un peu moins connu dans le cinéma de Broca, qu'on retrouve ici, vraiment avec l'idée du personnage de Lucchini qui veut vraiment transmettre auprès des jeunes générations. Et on retrouve aussi dans le film, enfin, elle a su s'entourer de gens comme Guillaume Schiffman, qui est connu pour avoir fait la photo d'The Artist et des OSS 117. Donc elle avait vraiment besoin aussi pour son premier film, je pense, de tous ces gens-là pour l'épauler, pour faire un film quand même qui a un budget quand même assez important. Bon, au final, je trouve que le film est sympathique, il est assez enlevé finalement, au bout du compte. Pas forcément comme un film de Broca, mais quand même. Mais je trouve quand même que les dialogues sont pas assez percutants, qu'il y a un petit problème aussi de casting, parce que je trouve que Lucchini, il en fait des tonnes, il est en roue libre. On sent justement à l'écriture que Turpin aussi écrivait presque pour lui, quoi. Enfin, il y a des trucs qui sont vraiment sur mesure pour lui. Mais en même temps, voilà, c'est un homme de 73 ans. Donc quand on sort la référence Indiana Jones pour le film, c'est plus le dernier Indiana Jones, quoi, le Harrison Ford. Donc le film avance quand même au rythme de Lucchini. Et puis Julia Piaton, qui est par ailleurs la fille de Charlotte Turkheim, donc qui pourrait apporter davantage de comédie. Je trouve qu'elle a un personnage un peu trop négatif et trop sérieux, donc qui manque de légèreté pour incarner en tout cas une héroïne de film d'aventure. Voilà.
Alors c'est sûr, quand on entend les références citées par la réalisatrice Barbara Schulz, L'Homme de Rio, elle cite aussi L'Innocent, moi j'avais beaucoup aimé, de Louis Garrel. C'est-à-dire ce mélange un peu comédie italienne en fait, c'est-à-dire mélanger intrigue criminelle ou là intrigue d'aventure avec en filigrane de la comédie, mais aussi des liens d'amitié ou de tendresse de famille. Elle y parvient pas totalement, mais ce que j'ai aimé dans cette comédie familiale, donc sur fond de chasse au trésor, ce que j'ai aimé c'est qu'il y a plusieurs films finalement dans le film. Donc il y a le Lucchini film, on s'attache au personnage, déchaîné, énergie communicative, une drôlerie, une excentricité, il est attachant, donc voilà, Fabrice Lucchini film. Après, il y a la comédie de Buddy Movie, donc à côté de Lucchini, il y a Julia Platon et ils forment une espèce de duo de complémentarité, où finalement il y a une drôlerie dans leur malentendu, dans leur différence de rythme aussi. Quand elle va vite et lui, il est à la traîne, enfin voilà, il y a une drôlerie là-dessus, donc c'est un deuxième film. Et puis le troisième film, et c'est celui qui m'a le plus intéressé, c'est l'histoire des archives du Louvre, des secrets de la Malmaison, le sens du voyage, en fait, avec Napoléon, qui aurait donc substitué des œuvres à l'Égypte pour les mettre au Louvre. Donc il y a toute cette inspiration historique qui, au final, s'avère assez intéressant. Et d'ailleurs, sans divulgâcher, le film se termine sur une réconciliation de l'histoire, réparer quelque chose de l'histoire. Donc il y a vraiment une portée presque engagée là-dessus, sur les œuvres d'Égypte volées par Napoléon, quoi. Un pillage artistique.
Oui, bah écoutez, moi, alors je sais pas si c'est le senior en moi qui parle ou plutôt l'enfant, mais j'ai J'ai bien aimé, j'ai passé, comme on dit, un bon moment, et je pense que c'est un peu vraiment l'objectif de ce type de film, hein, c'est de faire passer au spectateur un bon moment, et là, le contrat est, me semble plutôt rempli. Faut dire que moi, je suis assez fan, et j'étais en tout cas enfant assez fan de ces films à intrigues, à énigmes, où on explore, où il y a des portes cachées, où il y a des secrets, ça me fait beaucoup penser au secret de la pyramide, ce film des années 80 avec un jeune Sherlock Holmes, ou sinon... dans un autre registre, au Da Vinci Code, évidemment. C'est difficile de ne pas penser au Da Vinci Code, qui est aussi ce film un peu avec des secrets dans Paris, mais avec une dimension quand même moins ésotérique et un peu plus historique. Donc ça, c'est pas non plus pour nous déplaire, même si je déteste pas Da Vinci Code, mais il ne faut pas le dire trop fort, ça, parce que c'est un peu... voilà, c'est sujet à débat, évidemment. Je trouve que Farid Zucchini, effectivement, en fait beaucoup, mais en même temps, ça correspond bien au personnage, et effectivement, on sent que ça a été écrit pour lui, donc ça marche, et ça rend le personnage pas si désagréable que ça. Cette intrigue, évidemment, ne tient pas la route une seule seconde, ce qui en soi n'est pas très très grave, parce que quand on va voir ce film, on cherche pas effectivement une véracité historique à différents endroits, on est plutôt amusé de découvrir des portes sacrées, des portes secrètes, et ce genre de choses, portes sacrées. Maintenant, il y a 2-3 moments où ça gêne un peu, comme notamment quand il découvre cette porte secrète à la Malmaison qui n'a déjà été ouverte depuis une centaine d'années, mais qu'on ne sait pas pourquoi il y a de la lumière qui éclaire par l'électricité la porte, l'intérieur de cette salle. Donc il y a plein de choses comme ça qui sont quand même un peu gênantes, mais malgré tout, ça donne quand même envie de faire un tour au Louvre. Ça donne envie, quand on est enfant, d'être archéologue quand même. C'est un peu comme Indiana Jones. Et ça donne envie de visiter tous ces lieux un peu secrets ou méconnus de Paris. Par exemple, aller dans, au niveau de la place de la Bastille, là où se trouve le génie de la Bastille. On peut le visiter à différents endroits ou passer dans le tunnel du canal Saint-Martin. Donc plein d'endroits qui sont visitables, mais qu'on connaît assez peu et qu'on a envie un peu de creuser. Et je trouve plutôt pas mal que c'est finalement assez peu une comédie, dans le sens que c'est un film plutôt de côté... c'est positif, il n'y a pas de choses négatives, c'est pas déprimant ou quoi que ce soit, mais il n'y a pas non plus de gags, ça ne cherche pas à faire énormément rire, et ça c'est plutôt pas mal, parce que la comédie française, souvent c'est un peu, parfois un peu malaisant, disons, et pas toujours très réussi, donc là ça reste très bon enfant, finalement, et ce qui fait que ça peut plaire à tout le monde, et l'image de Guillaume Schiffman, effectivement, est très belle, ce qui est quand même aussi une belle image assez rare dans le film à gros budget français, ou qui ont souvent une image assez télévisuelle, et là on a une vraie image de cinéma, et c'est pas désagréable, donc... je conseillerais, ça permet de passer un bon moment. Voilà.
Mais c'est vrai qu'il y a un bon équilibre entre le côté bonne humeur, pas vouloir faire la petite blague à chaque fois, le côté un peu ce premier degré. Mais ce qui est intéressant par rapport à Indiana Jones, c'est que ça ne cherche pas à faire Indiana Jones. Ça, c'est un univers dans lequel Indiana Jones a existé. On connaît l'univers d'Indiana Jones et on est là presque pour en rigoler aussi. Et par exemple, juste l'ouverture, moi je trouve intéressant où on est vraiment dans une intrigue d'Indiana Jones, on essaye d'ouvrir une porte, etc. Il perfore la porte et il tombe sur une cuisine d'un magasin, d'un restaurant.
Ouais, d'un fast-food.
D'un fast-food, voilà. Et puis le plan s'élargit, puis on se rend compte voilà, que c'était une petite maison à côté d'un fast-food. Donc du coup, voilà, c'est un univers où Indiana Jones a existé. On ne cherche pas à faire pareil, on est là pour s'en amuser, quoi. Donc ça, c'est... très réussi quand même.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Cette petite instrumentale féerique est signée Clovis Schneider pour Dans la cuisine des Nguyen. Alors c'est notre petit moment intermède recommandation dans l'émission. Et je recommande donc Dans la cuisine des Nguyen, qui est une comédie musicale qui m'a plutôt surpris. J'avais un peu peur quand même avant de le voir. Ce film raconte l'histoire d'une jeune femme d'origine vietnamienne, Yvonne, qui rêve de percer dans la comédie musicale, tandis que sa mère tient un restaurant. Donc sa mère a envie de la retenir au restaurant, pendant qu'elle accumule les castings pour passer des auditions et on la considère comme trop asiatique pour le rôle, d'un côté, et de l'autre côté, on la met dans des rôles trop caricaturaux pour son origine. Donc ça, c'est un film qui, en filigrane, se moque de l'intolérance, une manière de freiner les ambitions artistiques, qui aborde des questions d'identité, de pression sociale, d'attente du public aussi. Donc voilà, assez réussi donc dans la cuisine de Nguyen, et je vous citais ce film pour vous annoncer l'existence à partir de ce soir d'un festival à Marseille qui projette ce film parmi tant d'autres, du 24 au 29 mars. Donc c'est le festival musique et cinéma de Marseille pour sa 26e édition. Il y a des masterclass, des ciné-concerts, des films en compétition, des échanges, des rencontres avec des compositeurs, compositrices. Donc j'aurai l'honneur d'y animer une dizaine de rencontres. Je crois que à mes côtés, Pierre Charpilleuse y sera aussi. Voilà, donc un festival incontournable sur la musique de film pour y faire des rencontres. Je peux citer juste un nom important de compositrice qui est Jocelyne Pouk, qui avait fait la musique de Eyes Wide Shut. Donc elle sera là parmi tant d'autres.
Bernard.
Une recommandation. Il y a beaucoup de films que j'ai pas vu, donc je poserai des questions après pour savoir si vous les avez vus, parce que ça me paraît intéressant. C'est ces titres que je vais vous citer sur suspense. Mais je voulais parler de juste, c'est un film qui n'a pas forcément besoin de moi parce qu'il est déjà sorti, qui marche plutôt bien, qui est un film qui s'appelle L'attachement de Karine Tardieu, qui est un très beau film, surtout, j'allais dire, en termes d'écriture, de sensibilité et d'interprétation, puisque ça raconte donc comment. D'ailleurs, on peut se poser aussi bien du côté de l'enfant qui va perdre sa mère dans ce film, dès le début du film, et qui va se rapprocher de la voisine, Valeria Bruni-Tedeschi, que de la façon dont le deuil de cette femme est vécu par son compagnon Pio Marmaille, et la façon aussi dont Valeria Bruni-Tedeschi va vivre aussi cette situation, elle qui n'a jamais eu d'enfant dans le film et qui va se rapprocher aussi de cet enfant. Donc c'est vraiment à trois regards en fonction de ce point de départ terrible, tragique, et je trouve que c'est vraiment le mot nuance et le mot sensibilité, ces mots-là qui viennent vraiment en tête pour parler du film, la façon délicatesse aussi, finalement, pour parler de ce qu'est le film.
Ouais, tu l'as vu aussi, ouais, très très émouvant, avec aussi des enfants, enfin en tout cas un enfant très attachant. Enfin, il y a un super rôle d'enfant dans le film, et une super BO, beaucoup de musique très très réussie.
Voilà. Et puis voilà, je ne sais pas si vous avez vu des films comme La Cache de Lionel Bayer ou Vermiglio, le film italien.
J'ai vu Vermiglio, j'ai pas vu La Cache. Vermiglio, oui, un peu partagé. C'est assez beau, plastiquement, très pictural, etc. Après, je me suis assez ennuyé. Mais bon, voilà, c'est. Toi, tu l'as bien.
Non, bah justement, voilà, c'est.
Non, aucun des deux.
Parfait. Toi, t'as une recommandation, Pierre ?
J'ai une recommandation, ouais, je vais faire un peu d'autopromo. Voilà, pourquoi pas, je me permets. Pour vous donner rendez-vous, le mardi 22 avril à 20h45 au cinéma Star Saint-Exupéry de Strasbourg, s'il y a des Strasbourgeois qui nous écoutent, pour la soirée de lancement du festival Récit Corallien, un festival dédié aux questions d'écologie dans la fiction, que j'ai le plaisir de piloter la programmation. Je ne suis pas directeur du festival, mais je m'occupe de la programmation. Alors, pourquoi ce festival ? Une grande question qui agite depuis toujours, peut-être, chacun des cinéastes et cinéphiles, c'est comment le cinéma peut être non seulement le reflet des problématiques de la société, mais aussi un outil pour penser autrement le monde. Et si on prend les questions d'écologie, il y a bien sûr beaucoup de documentaires qui font un travail pédagogique, analytique, réflexif, souvent passionnant. Je pense notamment au film de Dominique Marchais, dont on a déjà un peu parlé ici, comme La Rivière, par exemple, récemment. Mais accepter la nécessité du combat écologique, c'est donc essayer aussi de penser le monde différemment et donc essayer de raconter des histoires autrement. Et le but du festival Récit Corallien, c'est de mettre en avant ces nouvelles histoires. Parmi les exemples les plus emblématiques, il y a bien sûr eu Le règne animal récemment, dont on a beaucoup parlé, mais dans les sorties récentes ou prochaines, que vous avez peut-être vues, je pense par exemple à Magma de Cyprien Vial, là, qui sort mercredi, Harvest d'Antina Rachel Tsangari, Harvest qui est très très réussi, que je vous conseille, un film sur la communauté qui est assez incroyable, Berger de Sophie Desrapes, réalisatrice québécoise qui raconte l'histoire d'un jeune Québécois qui décide de devenir berger dans le sud de la France, ou encore le très mignon La légende d'Oshi d'Isaiah Saxon, qui n'est pas un grand film, mais qui est un joli film un peu à l'ancienne sur une relation d'amitié entre une jeune fille et une créature fantastique, disons, et on montrera donc ce film, La Légende d'Oshi, le 22 avril. Ce sera suivi d'un débat avec plusieurs personnalités autour de penser la nature et le vivant autrement en action. Mais c'est surtout l'idée de faire un avant-goût d'un festival qui se déroulera sur plusieurs jours en 2026 et pour lequel nous sommes toujours à la recherche de collaborateurs. Donc, vous qui entendez cet appel, je me permets, n'hésitez pas à nous écrire ou m'écrire si vous souhaitez rejoindre l'aventure.
Voilà, il y a aussi le festival Format Court qui débute le 2 avril, voilà, avec une soirée autour de Vincent Macaigne, mais surtout une belle programmation, très belle programmation.
Avec le compositeur Amine Bouafa dans le jury.
Absolument.
Voilà, je salue Katia Bayer qui mène de main de maîtresse ce festival.
Avec aussi Félix Kissil qui avait été invité de Nuit Américaine ici à l'IGRFM, qui fait partie aussi du jury. Et voilà. Et puis évidemment le festival film de femmes qui commence à Créteil début avril. Voilà.
La culture va mal puisqu'on enlève des financements, mais comme on l'entend, elle est toujours vivante. Voilà la petite phrase avant la musique qui suit. Et oui, l'Italie sait faire en variété. Il s'agit de L'estate sta finendo de Righiera, donc un morceau qui date de 1985. Donc il y a le côté rétro pour ce Partenope de Paolo Sorrentino.
Partenope ou Partenope, donc le nouveau film de Paolo Sorrentino, la vie de Partenope, de sa naissance dans les années 50 à nos jours. Une épopée féminine dépourvue d'héroïsme mais prise de liberté, de Naples, d'amour. Les amours vrais, indicibles ou sans lendemain, qui vous condamnent à la douleur, mais qui vous font tout recommencer. Le parfait été à Capri d'une jeunesse insouciante, malgré un horizon sans issue. Autour de Partenope, les Napolitains, scrutés, aimés, désillusionnés et pleins de vie, que l'on suit dans leurs dérives mélancoliques, dans leurs ironies tragiques et leurs moments de découragement. Est-ce que vous avez été séduit par Partenope ?
Pas du tout. Alors, je vais peut-être commencer pour vous laisser terminer avec des notes positives, peut-être. Alors, Paolo Sorrentino fait partie, donc là, de ma petite bête noire. C'est-à-dire qu'il y a, j'ai trois ou quatre cinéastes uniquement qui conjuguent un succès dans les festivals et une détestation complète. Je pourrais citer Ruben Östlund, voilà. Et donc, Paolo Sorrentino, dès La Grande Bellezza, pour moi, j'ai jamais accroché. Je trouve que c'est une coquille vide, du grotesque écœurant, une esthétique publicitaire, et puis une misogynie complète, du papier glacé sans émotion. Sorrentino peine pour moi à insuffler une vie à ses personnages. Et puis le récit s'éparpille en une succession de scènes qui, bien que visuellement léchées, peinent à tisser une trame narrative cohérente. On a l'impression d'assister à une galerie d'instantanés, belles mais déconnectées, comme des cartes postales d'un voyage sans destination. Le style semble prendre le pas sur la substance. L'écrin étouffe le joyau. Naples, que j'aurais envie d'apprécier, est réduite à un décor de carton-pâte, un arrière-plan luxueux mais inerte. Je ne ressens aucune âme dans cette ville ainsi filmée, sans vitalité, juste le chaos, une quête effrénée de l'esthétique, hein, qui est le sujet du film, la quête du beau, qui relègue l'histoire au second plan, la noyant sous un flot d'images clinquantes. Le film se veut contemplatif, mais ne parvient pas à nous toucher. En tout cas, moi, il n'est pas parvenu à me toucher au cœur.
Tu vas sauver le film, Bernard.
Non.
Oh, là, 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 là.
Oui, c'est un cinéaste qui me donne des boutons, moi, Sorrentino. Donc, à part peut-être Il Divo, que je vais sauver, mais des films comme Youth ou This Must Be The Place m'avaient vraiment fait fuir de la salle avant la fin. Et là, évidemment, ça va pas du tout non plus, d'autant plus que j'aime beaucoup le sujet, pour le coup. Le portrait de cette femme qui traverse les époques en Italie dans les années 70, ça débute vraiment là. Qui traverse la société italienne, qui aperçoit qu'elle a eu dans sa vie des occasions manquées, qui souffre beaucoup de la mort de son frère, plus ou moins incestueux d'ailleurs, en tout cas adoré. Elle aurait pu devenir actrice et puis elle fait carrière à l'université. Elle trouve sa liberté, elle rencontre des personnages très étranges sur son parcours. Cette femme, cette star complètement défigurée dont on ne voit plus le visage, ou bien ce monstre fait d'eau et de sel, là, à la fin, le fils de l'universitaire. Donc il y a des choses comme ça très exagérées dans le film, mais très insolites et pour le coup, pourquoi pas. Mais pour moi, en tout cas, ce parcours, ce temps qui passe, qui est revendiqué, assumé par Sorrentino, ce travail de la mélancolie, il ne fonctionne pas, il n'est pas compatible avec cette esthétique pubarde qui est digne des télévisions Berlusconi. Pour en plus filmer Naples, ce qui est un comble, parce que d'opter pour cette esthétique vulgaire du parrain de Milan pour filmer l'Italie du Sud. Donc, à la limite, je peux l'accepter pour des séries comme White Lotus, cette esthétique semblable. Mais pour ce film-là, je trouve que ça ne fonctionne vraiment pas du tout. Et je vois défiler effectivement un film qui ne m'émeut jamais. Et on sent pas du tout le temps qui passe sur elle. Sorrentino, dans une interview à Positif, a été surpris qu'on lui fasse ce reproche en disant « Mais si elle était maquillée, etc. » On a travaillé pour que le temps passe sur son visage. Et je trouve pas du tout, ne serait-ce que ça. Et on le sent pas du tout dans le film. Et puis voilà, il y a plein de choses. Déjà, ce symbolisme d'appeler ce personnage féminin du nom du nom antique de la ville de Naples, pour avoir un symbolisme un peu lourdeau, d'avoir des personnages aussi comme Gary Oldman qui sont extrêmement gênants.
Et c'est drôle parce qu'on a vu ce film à Cannes en même temps que The Substance. The Substance, oui, qui parlait du vieillissement d'une femme qui est rejetée de la société du spectacle. Et là, on a cette beauté qui vieillit mais qui reste toujours jeune en fait. Donc il y a une espèce de volonté de refuser l'âge qui peut être visible sur le visage de cette actrice.
Non, mais c'est super bien parce que Stefania Sandrelli qui incarne, elle a vraiment deux scènes dans le film. Elle arrive vraiment à la fin. Il y a une ellipse énorme entre le moment où Parthenope est jeune, plutôt jeune, et pour arriver à elle, qui est aussi très 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 étrange pour le coup, pour marquer, c'est-à-dire qu'il veut dire des choses sur le vieillissement de ce personnage et en même temps, il le filme pas vraiment. Ouais. Pierre, tu vas sauver le film ?
Oui, je ne vais pas me porter en grand défenseur du film, mais j'ai plutôt aimé malgré tout. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, même si je comprends la comparaison avec The Substance. Mais The Substance, finalement, c'était l'histoire d'une femme qui n'acceptait pas de vieillir. Et c'est finalement aussi quand même un film d'une réalisatrice qui a peur de vieillir. Et je pense que c'est ce qu'on ressent vraiment quand on regarde The Substance, alors que Parthenope est quand même un film sur l'acceptation de la vieillesse, sur le fait que, les temps changent et on va vieillir et c'est inéluctable. Il y a quelque chose de plus positif dans le rapport, je trouve, au temps qui passe et à la vieillesse, me semble-t-il. Sur Naples, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir Naples filmé comme ça. Naples, ouais, la ville de Vittorio De Sica, qu'on a vu dans plein d'autres films, qui est tellement filmé au cinéma, et on n'a pas l'habitude de voir l'esthétique sorrentinesque publicitaire, effectivement, à coller à cette ville. Mais en même temps, c'est la ville de Paolo Sorrentino, et après tout, pourquoi ne pas filmer Naples comme ça ? On accepte de voir filmer Rome comme ça, alors pourquoi pas Naples ? Moi, j'avais beaucoup aimé La Grande de Bellazza, que je trouvais une lettre d'amour à Rome qui était très réussi. Il essaye de faire la même chose avec Naples. Ça fonctionne parfois ça fonctionne moins. Je trouve l'idée effectivement de reprendre ce personnage mythologique qui est quand même une sirène, hein, la sirène Parthénope qui séduit les hommes et qui est le symbole de Naples pour en faire une femme. C'est certes un peu lourd, mais en même temps, certes le cinéma de Paolo Sorrentino est lourd dans son esthétique, dans son scénario, dans ses allusions, dans ses métaphores. Mais contrairement à Ruben Ostlund, que tu citais, il assume complètement sa lourdeur. C'est-à-dire qu'il ne fait pas semblant qu'il va nous apporter quelque chose d'une grande finesse. Il dit « Ok, je vais vous montrer quelque chose avec une esthétique publicitaire. C'est mon esthétique, c'est la manière dont j'aime filmer. Mais l'esthétique publicitaire peut être belle parfois aussi quand elle ne sert pas non plus un projet qui est un projet 100% capitaliste de vendre des choses, etc. » Et je trouve que là-dedans, il réussit plutôt pas mal, c'est assez beau, c'est assez mélancolique, les musiques sont très belles, c'est un peu long, il y a des moments où ça se perd un peu, ça s'éparpille, mais malgré tout, je reste assez, je trouve que ça reste assez original et c'est quand même un cinéma qui est malgré tout assez à part et que je continuerai quand même à défendre.
Un cinéma bourrin assumé.
C'est ça.
Par mais
pas tellement bio.
Je voulais laisser les mots oui. positifs de Pierre, mais tu as...
Ça. Bourrin, je suis pas sûr, non. C'est moins bourrin que...
C'est moins Robin Osloon.
Que Robin Osloon, parce que Robin Osloon, c'est du prêt à penser. C'est-à-dire que le message, il est clair. Quel est le message de Parthenop? C'est beaucoup plus ambigu. Je veux dire, qu'est-ce qu'on en pense de cette femme? Qu'est-ce qu'on en pense de Naples? Qu'est-ce qu'on en pense de cette ville aussi qui a quelque chose de pourri en elle-même par les gens qui en sont et en même temps qui est profondément belle, qu'on peut profondément aimer, qui est perpétuellement bloquée dans cette mélancolie? C'est quelque chose de. En fait, finalement, derrière cette esthétique, certes bourrine, il y a quelque chose de beaucoup plus fin qui transparaît, il me semble.
Très bien. On parlait donc du portrait d'une femme, on parlait du vieillissement, on parlait donc de l'âge, le temps qui avance. Eh bien, c'est aussi le sujet central du prochain film.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Ces petites notes éthérées, ces sonorités acoustiques chaleureuses, cristallines, teintées de couleurs feutrées, enveloppantes, sont signées Andrew Wyatt. Alors c'est intéressant de remarquer que Andrew Wyatt était le compositeur de Barbie, et donc faire le parallèle via ce compositeur entre Barbie et The Last Showgirl peut être une comparaison intéressante.
Donc The Last Showgirl de Gia Coppola, donc la petite fille de Francis Ford Coppola. Shelley, une danseuse de cabaret expérimentée, doit faire face à son avenir lorsque son spectacle à Las Vegas est brusquement interrompu après 30 ans de représentation. Danseuse dans la cinquantaine, elle peine à trouver quelle suite donner à sa carrière. Et en tant que mère, elle cherche à réparer une relation tendue avec sa fille, qui a souvent été reléguée au second plan par rapport à sa famille d'artistes. Alors... The Last Showgirl, plutôt Showgirls, qu'est-ce que vous préférez, Benoît, Bernard?
Bah, j'en ai... Alors, j'aime pas beaucoup, mais j'en ai lu tellement de choses éreintantes sur Pamela Anderson que moi, j'ai quand même envie de sauver Pamela Anderson. Je trouve quand même qu'elle a un jeu très sincère. Elle est assez émouvante, moi, je trouve, dans certaines scènes. Moi, ce qui m'a ému dans ce film, c'est l'idée d'une étincelle éteinte et l'envie de la ranimer, quoi, de raviver une flamme. Donc ça, c'est un peu le fil rouge du film, raviver une flamme, un spectacle qui se termine, un show, en fait, qui va être arrêté brutalement, et une envie de renouer avec sa vie, renouer avec sa fille délaissée. Donc il y a cette idée comme ça de raviver une flamme, de se reconnecter avec soi. Et Pamela Anderson, je l'ai trouvée assez émouvante dans ce rôle. J'en dirai peut-être un peu plus tout à l'heure, mais Bernard, là-dessus.
Non, mais alors, ce qui est terrible avec ce personnage, cette femme, il y a à un moment donné une scène qui le raconte, c'est qu'elle a été choisie à une époque parce qu'elle était jeune et belle pour être danseuse dans un spectacle de seconde zone de Las Vegas, et que bah, maintenant que le spectacle, ça marche moins bien, qu'elle est plus âgée, elle n'a pas d'autre destin que d'être serveuse à Las Vegas. Et voilà, tout est là dans cette description-là, finalement. Et le film raconte vraiment la fin d'un monde, la fin d'une époque et la fin d'une carrière, d'un travail pour ce personnage principal. Et je trouve le film assez juste. Mais le principal intérêt du film, c'est parce que le film n'a qu'une idée au fond, c'est celle qu'on a décrite. Mais après, au-delà de ça, voilà, le film enchaîne les scènes qui retravaillent un peu cette idée-là de fin d'un monde et de fin de parcours d'un personnage, d'un moment clé, de la relation aussi qu'elle a avec sa fille. Qu'elle retrouve à un moment donné, qui va voir pour la première fois le spectacle, qui va la juger aussi. Donc c'est un personnage qui doit batailler pour son avenir, qui est hanté par son passé. Et voilà, et le film vaut pour effectivement les comédiennes. Évidemment, Pamela Anderson, qui est assez incroyable parce que voilà, elle y va, quoi. Effectivement, on a l'impression que ça lui tient à cœur et qu'elle y va pour affronter ce personnage et pour l'incarner. Il y a quelque chose d'assez frontal. Elle aurait pu d'ailleurs prétendre à. Elle a été nominée, je crois, au Golden Globes, mais ça s'est arrêté là, et, parce qu'il n'y a pas eu assez, je pense, d'énergie du distributeur pour porter le film. Et c'est aussi pour ça que le film n'a pas été au-delà de cette nomination-là. Mais voilà, c'est un peu comme Demi Moore, finalement. Pour The Substance, c'est un peu la même idée d'un comeback. Et puis voilà, il y a d'autres actrices qui sont super, évidemment Jamie Lee Curtis, même si moi je trouve quand même un poil gênant sa chorégraphie sur la chanson de Bonnie Tyler, mais elle est quand même très très bien dans le film. Et puis il y a aussi Dev Bautista, c'est un choix de casting étonnant, qui a commencé comme catcher, qui a été Drax le destructeur dans les films de l'univers Marvel. Dans Les Gardiens de la Galaxie, il joue aussi, puis là il joue le régisseur du théâtre, l'ex du personnage de Pamela Anderson. Et voilà, et je trouve ça aussi, c'est un choix de casting intéressant. Donc le film est bien un poil ennuyeux, parce qu'on sait très bien qu'on ne sortira jamais de cette idée principale du film. Et il est filmé par une chef-op très talentueuse, qui a déjà travaillé avec Giacoppola, qui s'appelle Autumn Durald, qui a travaillé aussi avec Ryan Coogler, et qui a apporté... ce film est tourné, je crois, en Super 16, en tout cas en argentique, et elle a trouvé des objectifs assez qui donnent une coloration assez un peu étrange au film, un peu onirique au film, et le travail de l'image est intéressant aussi, voilà.
Moi, c'est la nouvelle Coppola que je découvre. Hein. Je ne connaissais pas celle-ci. Je connaissais Sofia, évidemment. Et j'ai du mal. Alors, Pierre, qu'en as-tu pensé là-dessus?
J'avais beaucoup aimé c'est pas son précédent film, parce qu'elle a fait des films en fait, qui ne sont pas sortis en France, mais
le premier de ses précédents films. Le premier,
exactement.
Ouais,
Palo Alto, qui était très réussi, qui avait un côté très Bret Easton Ellis sur une jeunesse dorée qui n'avait pas beaucoup d'avenir dans cette banlieue de San Francisco, qui était un très beau film, très triste, très mélancolique, avec aussi voilà, des choses un peu inégales, le personnage de James Franco qui n'était pas non plus extraordinairement bien écrit, mais qui résonne quand même beaucoup, un personnage avec ce qui est devenu James Franco depuis, notamment, c'est un personnage d'agresseur sexuel, donc quelque chose d'assez intéressant qui était décelé par Giacoppola dans ce premier film. Là, je dois dire que j'ai quand même été très très... déçu de The Last Showgirls. Comme vous le disiez, il y a cette histoire, effectivement, vieillissement, une danseuse qui vieillit et qui ne peut plus devenir danseuse, vieillissement des corps, etc. Une fois qu'on a raconté ça, je trouve que le film ne raconte pas grand-chose, et surtout ça, à proprement parler, il ne le raconte pas. Je veux dire, il n'y a aucune scène de répétition, il n'y a aucune scène de danse, alors que quand même, une des idées principales du vieillissement des corps, c'est quand même aussi, certes, il y a sa beauté et il y a aussi le fait qu'elle sache danser, qu'elle puisse bien danser, etc. Or, en vieillissant, c'est plus difficile de danser. Enfin, il y a quand même quelque chose à explorer autour de ça qui n'est pas du tout exploré. Je trouve ça quand même très, très dommage de faire un film sur une danseuse dans lequel on ne la voit jamais danser. Pamela Anderson, moi, je l'aime beaucoup, surtout ses prises de position politique. Je la soutiens à fond. Maintenant, ce n'est pas non plus une actrice extraordinaire. Et là, je trouve qu'on le sent quand même qu'elle est assez limitée. Alors, c'est peut-être aussi la direction d'acteur, parce que Jamie Lee Curtis, qui peut parfois être extraordinaire, là, elle en fait un peu trop quasiment tout le temps. Et moi, je l'ai trouvé assez insupportable. Quant à Dave Bautista, il est sur une ligne. Là, c'est le mec costaud gentil, qui a une voix calme, même s'il a un corps un peu épais. Bon, je trouve ça un peu léger. La relation avec la fille du personnage de Pamela Anderson est complètement prétexte, pas très intéressant, et je trouve qu'on s'en fout complètement, en fait, au bout d'un moment, que sa fille n'aime pas son spectacle, et finalement, elle va se rabibocher, parce qu'on sait très bien qu'elle va se rabibocher, quoi qu'il advienne. Je trouve ça un peu facile. Et globalement, même l'esthétique, certes, on a ces effets un peu d'image, avec une image qui est très nette sur les visages et très très floue sur les côtés de l'image. Je trouve ça très fabriqué, un peu. Ça se regarde beaucoup filmé. Voilà, moi je trouvais ça très décevant, surtout que c'était une réalisatrice qui avait pas mal de promesses. Mais bon, j'attends quand même la suite.
Eh bien, comme on dit, à chacun de faire son choix. The Last Showgirl, moment gênant, Bernard, tu disais, sur Jamie Lee Curtis qui danse. Mais on va quand même tous danser.
Oui, parce qu'on adore la chanson.
Ah bah parce que Bonnie Tyler, quand même.
Sur Total Eclipse of the Earth pour se quitter. Merci. Turn around. Every now and then I get a
little bit lonely and you're never coming around.
Turn around.
Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears.
Turn around.
Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by.
Turn around.
Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes.
Turn around.
Why?
Turn around.
Every now and then I get a little bit helpless and I'm lying like a child in your arms.
Turn around.
Every now and then I get a little bit angry and I know I've got to get out and cry.
Turn around.
Every now and then I get a little bit terrified but then I see the look in your eyes.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.